Bonjour, bonjour, Vomi ou Yves, c'est mieux, au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, de préférence sur un grand écran, même si maintenant avec le numérique, tout ça, la différence n'est plus si nette par rapport à votre téléphone portable préféré. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer musicalement, bien sûr, la carrière de James Newton Howard, un compositeur américain né le 9 juin 1951 à Los Angeles, donc quasiment dans le lieu de naissance du cinéma américain, quelque part en Californie. James Newton Howard, qui pour autant n'a pas commencé sa carrière comme musicien de film, puisqu'il fut au clavier avec Elton John, figurez-vous, dans les années 70 donc, et 80, au tout début de sa carrière, et il est associé, non pas à la composition, mais à des arrangements célèbres de quelques chansons fameuses du maître, dont « Don't go breaking my heart », je vous laisse le chanter dans votre petite tête, ou « Sorry seems to be the hardest word ». Ah oui, ça c'est beau, « Sorry seems to be the hardest word ». On revoit Elton avec ses grosses lunettes en train de le chanter sur un piano. Sauf erreur de ma part, blanc. Ensuite, eh bien, plus ou moins naturellement, c'est à partir de 1985 que James Newton Howard se tourna vers le cinéma. Alors, il y rencontra, je dirais, un succès plutôt mitigé dans les années 80. Mais à partir de 1999 et du Sixième Sens, un fameux film de M. Night Shyamalan, eh bien, il gagna ses galons de compositeur star et il accompagna M. Night Shyamalan, c'est dur à dire quand même, pour beaucoup de ses succès et un succès. Mais ce jour, puisque dans mon souvenir, nous avons déjà consacré une émission à cette collaboration entre M. Night Shyamalan, c'est la dernière fois que je le dis, et James Newton Howard, eh bien, ce jour, nous allons plutôt nous concentrer sur les autres compositions musicales de James Newton Howard. Et on va écouter tout de suite un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1991 par Lawrence Kasdan. Alors, Lawrence Kasdan, ça ne vous dira peut-être rien, mais si je vous dis que le gars est le scénariste des Aventuriers de l'Arche Perdue, ok, ça vous calme déjà, hein, voilà. Donc en 1991, Lawrence Kasdan, eh bien justement, grâce à ses galons de célébrité acquis aux côtés de Steven Spielberg, eh bien il put tourner Grand Canyon, une histoire qui, comme son nom l'indique, se passe quelque part à côté de Grand Canyon. Je vous en dirai deux mots. Mais après avoir écouté un petit extrait de cette bande originale, Grand Canyon, James Newton Howard dans 24 notes secondes. Thank you. Ah bah oui, on aime ou pas, hein. Un extrait de la bande originale de Grand Canyon, une musique de James Newton Howard, un film de Lawrence Kasdan qui raconte une histoire d'amitié entre deux hommes que tout sépare. Un truc très très américain comme truc. Mac, interprété par Kevin Klein, un grand blanc, peut-être que vous vous souvenez de lui dans Un poisson nommé Vanda. Et Simon, incarné par Danny Glover. Ah bah oui, lui vous vous souvenez parce qu'il faisait déjà un couple, si je puis dire, hein, homme blanc, homme noir, avec Mel Gibson dans L'arme fatale. Ma foi, le film était plein de bons sentiments à l'américaine. On peut être assez exaspéré par le truc si on sait que les gars consomment 40% du budget des armes dans le monde. Enfin bon, je mentionne ça dans 24 secondes. On se demande bien pourquoi. En tout cas, c'était l'occasion d'une collaboration entre Howard et Kasdan, le deuxième cité, non content d'être le scénariste des aventuriers de l'Arche perdue, pardon, avait aussi tourné avant La fièvre au corps, un magnifique hommage au film noir en 1981. Et puis aussi, on peut citer, après pas tous, hein, Silverado en 1985, là encore un magnifique western, non pas dans la tradition, mais qui rendait hommage à la tradition du western, dans lequel, sauf erreur de ma part, il y avait déjà Kevin Klein. Ensuite, eh bien, la carrière de James Newton Howard dans les années 90-2000 fut très très importante. Le gars composa, je ne sais pas moi, 4-5 musiques de films par an. Peut-être un peu trop, alors évidemment, on ne va pas écouter des extraits de tout ça. Je vais juste picorer 2-3 titres comme ça, histoire de voir si ça vous dit quelque chose. En 1993, il fut du goûteux Chute libre de Joël Schumacher, où l'on voyait Michael Douglas péter les plombs, tout simplement, et comme on rêve tous le faire dans les embouteillages. Et puis, on vit aussi James Newton Howard associé aux deux plus gros bides de l'histoire d'Hollywood, enfin deux des plus gros bides de l'histoire d'Hollywood, les deux signés, des deux avec Kevin Costner, et l'un signé de Kevin Costner. Le premier en 1995 s'appelait Waterworld, et le second en 1997 s'appelait Postman. Alors là, on ne sait pas trop comment Kevin s'en est remis, mais il faut dire que le gars surfait quand même sur Danse avec les loups, donc ma foi. À Hollywood, on a toujours plusieurs vies, et puis, alors là, c'est déjà dans le genre plus sérieux, on peut citer aussi la participation de Ward à Collateral de Michael Mann en 2004 avec un Tom Cruise impérial, magnifique. Total, pour un film qui ne l'était pas moins, impérial, magnifique, total. Et puis en 2005, mais peut-être qu'on aura le temps d'écouter un extrait, James Newton Howard fut du King Kong de Peter Jackson, à peine remis du Seigneur des Anneaux, et qui réadaptait un vieux mythe. On va redescendre sur Terre pour écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné, je reprends ma petite fiche parce que sinon je ne suis rien, en 2009, donc vous voyez, on a sauté quelques années. Le film, il s'appelle Duplicity en anglais et Duplicité au Québec. On en écoute un extrait, je vous en dis un peu plus après, dans 24 notes, second. Ah ben, ça déménage, on peut pas dire le contraire. Un extrait de la bande originale de Duplicity, musique de James Newton Howard, un film de Tony Gilroy, une histoire d'espionnage industriel, ma foi, plutôt habilement troussée, dans les rôles principaux de laquelle on retrouvait Julia Roberts et Clive Owen, avec à leur côté les solides Tom Wilkinson et Paul Giamatti. J'ai oublié de citer, mais le nom de Julia m'y fait penser, que James Newton Howard fut aussi, dès 1990, le compositeur de la bande originale de Pretty Woman, eh oui, de Gary Marshall, même si ce n'était pas la bande originale qu'on a retenue de ce film. Et il enchaîna d'ailleurs avec le film suivant de Julia, qui s'appelait Le choix d'aimer, en 1991, Dying Young, une histoire là aussi bien américaine. Comme on les aime pas forcément. On va enchaîner sur une autre bande originale, alors là dans un genre tout à fait différent, puisque en 2011, James Newton Howard fut de l'aventure Green Lantern de Martin Campbell, un de ses multiples films de super-héros, comme on en voit peut-être un peu trop maintenant. Alors beaucoup ont du succès, celui-là n'en eut pas, il faut bien le reconnaître. Green Lantern reste un des gros échecs du box-office américain pour la Warner Bros. Et Green Lantern 2 et 3 qui étaient prévus, eh bien, n'obtèrent pas le feu vert. Green Lantern n'obtint pas le feu vert. Qu'est-ce que je suis drôle, colossal. Alors, dans le film, on voyait au début un prologue dans lequel on essayait de vous résumer l'histoire de Green Lantern, et déjà à la fin du prologue, vous étiez endormi. Et ma foi, c'est pas le film qui pouvait vous réveiller, dans lequel pourtant il y avait le solide Ryan Reynolds et surtout la délicieuse Blake Lively dans les rôles principaux. Il y avait même des méchants, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins, tout ça. Mais ça ne suffisait pas. La sauce ne prenait pas. Et ma foi, Martin Campbell, qui fut le réalisateur d'au moins un James Bond plutôt bienvenu, dont le titre m'échappe, eh bien, Rangena, donc Green Lantern 2, 3 et que sais-je encore. Même chose pour James Newton Howard, ça ne va pas nous empêcher d'écouter quand même un extrait de la bande originale du dit film. Le titre, vous ne l'avez pas oublié, j'espère, et l'émission, c'est 24 notes secondes. Eh bien, ma foi, ça se tient. Un extrait de la bande originale de Green Lantern, une musique de James Newton Howard, un film de Martin Campbell qui ne fut donc pas un très très gros succès, bon, peut-être immérité, hein, à écouter cette bande originale. C'était le prologue du film, ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on ne comprenait absolument rien au bout de 3 minutes. Et ma foi, c'était plutôt bien. Dans les années qui suivirent, eh bien, James Newton Howard, qui est quand même désormais un des grands compositeurs de Hollywood, même si né en 1951, il est quand même plutôt jeune, eh bien, on le vit associé notamment à la saga Hunger Games, puisque dès 2012, il composa la bande originale du premier opus, qui s'appelait tout simplement Hunger Games. En 2013, celle du second opus, l'embrasement, pardonnez-moi, pas l'embrassement. Et en 2014 et 2015, c'est très à l'américaine, ça, celle de l'opus 2,5 et de l'opus 3, puisque pour faire plus d'argent, on l'a vu aussi pour Harry Potter, eh bien, ou pour je ne sais plus quelle série avec des vampires, là, dont le titre m'échappe, mais ça va me revenir, eh bien, on décompose un film en deux parties, comme ça, ça rapporte un peu plus d'argent, même si on s'ennuie mortellement dans les deux parties, puisqu'on dilue sur deux parties de 2h30 chacune, quelque chose qui aurait pu tenir peut-être en une demi-heure, quelque chose comme ça. Bon, j'exagère un petit peu quand même. Mais en tout cas, c'était évidemment pour James Newton Howard de très, très gros contrats. Même chose pour Les Animaux Fantastiques, tourné en 2016 avec sa suite en 2018 et peut-être donc sa suite en deux parties en 2022 ou 2023, je ne sais pas trop. D'après les romans de J.K. Rowling, bien sûr. Enfin, ce n'est pas des romans pour le coup, Les Animaux Fantastiques, mais d'après les récits de J.K. Rowling, l'auteur déjà cité de Harry Potter. On va plutôt écouter la bande originale d'un film qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça s'appelle Night Call en français. On ne sait pas trop pourquoi, c'est pas avoir du français vraiment. Mais en tout cas, ça s'appelle Nightcrawler en anglais. Un film tourné en 2014 par Dan Gilroy. Alors donc je suppose que Dan Gilroy, sans trop le savoir, c'est le fils de Tony Gilroy, déjà cité tout à l'heure à propos de Duplicity. Et donc en 2014, pardonnez-moi, eh bien Dan Gilroy tourna ce thriller tout à fait fascinant. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Ça raconte l'histoire de Jack Gyllenhaal, un espèce de paumé, qui une nuit se retrouve à filmer un incident entre plusieurs personnages qu'il envoie ensuite à une télé qui est spécialisée justement dans ce genre de film qui montre des événements de la vraie vie, si possible glauque, avec des policiers qui se font tuer, des poursuites en voiture, que sais-je encore. Et petit à petit, eh bien, il devient professionnel en fait de cette industrie, entre guillemets. Et après, eh bien, il crée lui-même ses propres événements pour les filmer. Et c'est là, évidemment, que les choses se gâtent. Mais je me garderai de divulgâcher, comme disent nos amis québécois, le reste du récit. Je vous invite plutôt à voir ce film qui était une méditation tout à fait solide, sarcastique et cynique sur le voyeurisme à l'américaine, mais à la limite, le voyeurisme de la télévision dans son naturel, un film avec des couleurs absolument magnifiques, puisque comme son titre l'indique et son récit le suppose, il se passe essentiellement la nuit. Bref, voyez Nightcrawler de Dan Gilroy, et en attendant de le voir, eh bien, écoutez un extrait de sa bande originale, signé donc James Newton Howard dans 24 notes secondes. La très envoûtante partition de James Newton Howard pour Night Call, un film de Dan Gilroy tourné en 2014 avec Jack Gyllenhaal, l'ai-je déjà cité, absolument extraordinaire dans le rôle d'un personnage un peu décalé, et c'est peu dire. Et à ses côtés, il y a aussi la belle Renée Russo dans le rôle d'une productrice de télévision forcément cynique et prête à tout. Et puis un acteur qui depuis a fait sa petite carrière à Hollywood, Riz Ahmed, qui joue pour son malheur, mais vous le découvrirez en regardant le film, qui joue pour son malheur l'assistant de Jack Gyllenhaal. Bref, un film américain qui sort du lot, ma foi, ça devient de plus en plus rare, et puis pas une grosse production comme celle auquel James Newton Howard nous a habitués. C'est d'ailleurs sur une grosse production que nous allons nous quitter en revenant quelques années en arrière, 2005, l'année où Peter Jackson, qui apparemment n'était pas fatigué du tournage fleuve du Seigneur des Anneaux, eh bien s'essaya à réhabiliter, si on veut, non pas à réhabiliter, qu'est-ce que je raconte, à moderniser le mythe de King Kong, le fameux film de Shostak et Cooper, c'est mieux, tourné en 1933, et son remake que j'adore parce qu'il y a Jessica Lange dedans, tourné par John Guillermine quelque part dans les années 80, bon c'était tout pourri mais il y avait Jessica Lange dedans, et donc en 2005 avec les effets spéciaux numériques, enfin un film absolument gigantesque, dément, peut-être un peu trop, eh bien Peter Jackson réussit brillamment à renouveler ce mythe avec Andy Serkis dans le rôle de King Kong, il fut, ai-je besoin de souligner, le Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis, il y a Jack Black, il y a Adrien Brody et surtout, il y a la Belle, puisque sans Belle, il n'y a pas de King Kong. Naomi Watts, là encore, bon, c'est pas Jessica Lange, mais Naomi Watts, elle est quand même très très belle aussi. Allez, on se quitte sur ça. King Kong dans 24 notes secondes. Beauty Kills the Beast. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.